Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
André Cabanis, bonjour. Et merci d'être venu nous rejoindre et nous parlons de cette fameuse bataille, très bizarre bataille de 1814, bataille de Toulouse. Vous sous-titrez votre ouvrage paru aux éditions Midi-Pyrénéennes, vous le sous-titrez « Sans vainqueurs ni vaincus, bon, la bataille de Toulouse ». On verra pourquoi il n'y aura ni vainqueurs ni vaincus. Est-ce que les Toulousains étaient vraiment préparés?
Les Toulousains avaient surtout très peur. Hein. Ils avaient très peur des conséquences de la bataille et du risque que la ville soit très fortement affectée, voire détruite. Saragosse, en Espagne, avait été complètement pillée à la suite d'une... À l'époque, il y avait deux méthodes. Hein. Lorsqu'on voulait protéger une ville, on a déclaré ville ouverte. Hein. Et donc, ça voulait dire que les troupes ennemies pouvaient entrer, qu'elles n'auraient aucune résistance. Et puis, parfois, la ville servait de lieu de champ de bataille. On a vu ça dans un certain nombre de villes qui ont difficilement survécu, oui. Hein, comme Stalingrad. Hein.
Et donc, les Toulousains
étaient très inquiets par la perspective que leur ville serve de champ de bataille.
Oui, alors parfois on s'est moqué un peu d'eux, mais moi, dans le fond, je me dis que ce n'était pas des va-t-en-guerre, mais ils étaient peut-être des sages.
Ils étaient prudents, effectivement. Bon,
parce que beaucoup, vous le dites dans votre ouvrage, ce sont, si vous permettez cette expression, ce sont des filets quand même.
C'est-à-dire il y avait une armée française à l'époque. Soult a demandé un certain nombre d'aides. Il a demandé du matériel qu'il a reçu en quantité très, très insuffisante. Il a demandé des milliers de chaussures. On en a servi des centaines seulement. Il aurait voulu que la garde nationale vienne s'ajouter à ses troupes. Et il est venu très peu d'hommes. Non, c'est vrai que les Toulousains ne se sont pas beaucoup mobilisés.
Mais est-ce que... moi, je pense qu'ils étaient peut-être sages. Est-ce que quand même tout cela ne sentait pas une fin de règne?
Oui. Non seulement ça sentait la fin du règne, mais beaucoup le souhaitaient. Hein. Beaucoup, les gens n'étaient pas forcément des traîtres, hein. Mais ils trouvaient que Napoléon n'était pas raisonnable. Toutes ces guerres qui se succédaient...
Qui avaient entraîné une certaine misère, quand même.
Oui. Qui empêchait la vie des affaires.
Hein. Oui.
Donc les gens se disaient qu'il fallait arrêter la guerre. Et les Français, enfin le peuple, la population, la bourgeoisie, mais également les classes dirigeantes, hein, des gens comme Talleyrand considéraient que c'était plus possible, qu'il fallait arrêter la guerre et faire la paix et entrer dans une période de calme.
Oui. Vous notez qu'il y a des écrits de Cam Duplan qui rendent justice aux deux clans.
Je ne me rappelle plus très bien.
oui, pourquoi? C'est-à-dire que finalement, justement, ils n'étaient pas acharnés, comme vous dites, ils n'étaient pas violents, et même parfois certains ont été très fair-play, également les Anglais.
Ah oui, c'était pas une guerre en dentelle, hein, comme c'était une vraie guerre, hein, de vrais combats, et avec de vrais morts. Hein, Selon les historiens, on a l'impression que ça a été une boucherie qui a eu jusqu'à 20 000 morts. Non. En fait, d'après Scalette, et on peut lui faire confiance, il y a dû y avoir à peu près 600 morts du côté anglais, espagnol, portugais, et 300 morts, c'est classique. Hein. Ceux qui attaquent s'exposent davantage, oui, que ceux qui se résistent. Hein. Oui. Et 300 morts du côté français. Donc, vous voyez, ça fait
Mais on note des actes quasiment de charité.
Ah, il y a eu effectivement, oui, à l'époque, il y avait quand même une certaine réserve. Enfin, il ne faut pas en garder l'impression que la guerre était une guerre entièrement courtoise. Hein. Tous ces morts montrent bien que ce n'était pas une guerre pour rire.
Mais en définitive, j'étais en train de regarder. Donc cet affrontement était rigoureusement inutile. Des points délicats. Alors, vous en avez beaucoup mentionné, et je pense que ça intéressera beaucoup nos auditeurs, parce que vraiment, vous mentionnez précisément les lieux où il y a eu des combats, et également les lieux stratégiques. Alors, il y a les collines, et puis il y a les cours d'eau.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, l'essentiel a eu lieu à un endroit qui était cette fameuse colline qui longe l'Hers depuis les hauteurs de ce qui est actuellement le
Jolimont.
Depuis Jolimont jusqu'à les hauteurs de la côte pavée. Hein. C'est là qu'il y a eu l'essentiel des combats et que je ne dis pas que la décision est intervenue, mais en grande partie. Par ailleurs, il y a eu également, mais c'était déjà plus discret, il y a eu également le canal, les deux, le pont jumeau. Il y a eu également l'entrée donc du quartier
Saint-Cyprien,
voilà, tout à fait. Et puis, un peu partout, au fur et à mesure que les Anglais avançaient, il y avait des points où on combattait. Par exemple, il y a eu des combats Place de l'Ormeau, là où il y a le métro qui arrive. Deux détachements de cavalerie se sont rencontrés, les Français se sont retirés.
Ils arrivaient du nord, non ?
Non, pas vraiment. Ils arrivaient de... Ils arrivaient de d'Albi, mais de...
De Revel.
Oui, de Revel, voilà.
Oui.
Ils arrivaient de Revel, c'est pas tout à fait le nord. Hein. Et un soldat français a été coincé, s'est adossé à un arbre et a résisté jusqu'à la mort. Les habitants, d'ailleurs, du quartier ont été si impressionnés qu'ils ont, cloué son havresac sur l'arbre en souvenir de ce soldat qui avait résisté.
Hein. Il reste plus rien de cet héroïsme.
Il reste plus rien de ça. Vous disiez il y a un instant les cours d'eau. Oui, effectivement, on avait miné tous les ponts de l'Hers. Et au fur et à mesure que les Anglais
avançaient... Excusez-moi, je vous interromps, parce que pour qui connaît l'Hers, c'est un petit ruisseau, mais en fait, il faut le franchir.
Et notamment pour l'artillerie. L'artillerie ne passe pas, hein, si elle n'a pas de pont.
Oui.
Ou alors, il faudrait amener des pontonniers, ce qu'ils n'avaient pas toujours à disposition.
Donc, les ponts étaient minés.
Voilà, les ponts étaient minés. Au fur et à mesure que les Anglais avançaient, on faisait sauter les ponts. Et dans le pont de Lasbordes, que je connais bien, ce pont de Lasbordes n'a pas sauté. Il y a une scène un peu singulière où les Anglais étaient d'un côté, ils n'osaient pas s'engager sur le pont en sachant qu'il était miné, en disant il va sauter.
Titre.
Et les Français n'osaient pas revenir en se disant
par sauter.
La mèche est en train de brûler. Et puis finalement, un maréchal des logis, Vincent, a confié son cheval à l'un de ses camarades et est allé sous le pont pour rallumer la mèche qui était très très courte. Hein, et puis il est reparti au courant. Et le pont a sauté, il n'a pas été tué.
J'étais étonnée de voir que pour ralentir la progression de l'ennemi, on utilise aussi des tonneaux et des branchages, vous parlez de fascines, sur les ponts en particulier. Je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est... Ils n'ont pas eu le temps quand même de faire de véritables fortifications pour arrêter les troupes. Parce que est-ce que des tonneaux peuvent ralentir qui que ce soit ?
C'était la technique habituelle à l'époque. Hein.
Ah bon ?
L'objectif était d'empêcher le tir des canons. Hein. Et donc, en réalité, c'est ces redoutes dont je vous parle.
Oui.
Il y avait quelques murets, mais bon, construire un mur en quelques jours, ce n'est pas évident. Il y avait surtout, effectivement, une accumulation de tonneaux plein de terre et avec des branchages pour cacher les soldats qui se dissimulaient derrière. Et l'essentiel des fortifications de ces redoutes, c'était ça. C'était ces tonneaux pleins de terre contre lesquels les boulets ennemis venaient s'enfoncer.
D'accord. Alors, justement, est-ce que les Français et les Anglais, enfin, la coalition, avaient un matériel important, les Français en particulier ?
Oh, les Français avaient, oui.
Ils étaient bien armés.
J'ai dû mettre les chiffres. Je ne les ai pas... Mais il devait y avoir une centaine de canons. Hein, et les Anglais devaient en avoir un peu moins, parce qu'ils les amenaient de loin. Enfin, ils en avaient pris au passage en France. Et donc, il y avait une centaine de canons qui étaient utilisés de part et d'autre.
D'accord. Et est-ce que c'était, pour les uns comme pour les autres, des fantassins ou des cavaliers ou les deux ?
Les deux, bien sûr, oui. Vous parlez de matériel. Il y avait un matériel qu'on a utilisé à cette bataille, hein, qui n'a pas joué un grand rôle, mais enfin, qui a fait impression, ce qu'on appelait les fusées à la Congrève, hein, du nom
ah,
de
oui.
celui qui les avait inventées. En fait, c'est assez facile de les imaginer. Ils étaient fabriqués un peu comme nos fusées de
feux d'artifice.
Feux d'artifice, exactement. C'est-à-dire un tube et un morceau de bois, mais beaucoup plus grand. Le morceau de bois mesurait 2 mètres à peu près. Et donc, on remplissait ça de poudre, on allumait une mèche et on l'orientait vers l'ennemi. Et la fusée partait vers l'ennemi et explosait au-dessus des positions ennemies. En principe, parfois ça ne marchait pas, la fusée tournait, allait exploser n'importe où, voire même la fusée parfois revenait vers ceux qui l'avaient envoyée. Donc oui. Ce n'était pas très efficace, mais ça faisait impression. Ça faisait toute une série d'explosions qui impressionnaient.
Oui. Et donc des combats, parfois, vous notez, parfois même du corps à corps.
Ah oui, tout à fait, notamment, des combats au corps à corps, pas tellement à l'entrée du pont Neuf. Des combats au corps à corps, effectivement, très sérieux au pont Jumeau. Là, effectivement, ça a été tout à fait sanglant. Les Anglais sont arrivés jusque sous les redoutes, jusque derrière les fortifications qui avaient été faites. Et même un Anglais est arrivé à passer et à crier « Hourra !» Il a été tué immédiatement.
Oui.
Mais enfin, là, ça a été assez violent. Et puis surtout, sur la colline. Sur la colline, là, vraiment...
Ça a été sanglant.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que une des principales redoutes a été prise par les Anglais, et donc c'est ça, la redoute de la Cipière. C'est pas la Cépière comme pour les courses de chevaux. En fait, d'après ce qui s'est passé, les Français inexpérimentés sont sortis de leur redoute, ont voulu tirer sur les Anglais, ce sont les Anglais qui leur ont tiré dessus, et qui sont arrivés à s'emparer de la redoute.
André Cabanis, nous devons nous arrêter là. Le temps imparti s'est écoulé, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir.